Revue de presse de l'April, semaine 39, année 2013. Salut Manu.
Salut Nico.
Salut Luc.
Eh bien, qu'avons-nous au sommaire cette semaine ?
Alors c'est une grosse semaine avec beaucoup d'actualités sur plein de sujets, donc ça part dans tous les sens. On va vous parler de Prism et des 30 ans de GNU, les perspectives de l'open source dans l'année qui vient, le numérique et l'école, les patentes trolls, la culture non marchande et Framasoft, la loi du code, donc ça c'est un petit truc québécois, on les aime beaucoup en ce moment et il y a de quoi, porte ouverte de la région Île-de-France, et pour finir, le CSA qu'on va adorer détester, j'en suis sûr.
L'humanité.fr, à l'heure de Prism, les logiciels libres sont les plus sûrs, un article de Pierrick Marissal. Donc l'humanité, c'est rare d'avoir l'humanité dans la revue de presse.
Je crois que c'est la deuxième fois en un mois, qui est pas si mal.
Donc là, c'est une interview de Lionel Allorge. Donc
le... On le connaît celui-là, c'est qui?
Oui, on le connaît un peu, ouais, c'est un peu...
Bon, enfin, la photo est un peu vieillotte,
un
peut-être
peu vieille.
C'est celle qui est sur le site, c'est notre président. Donc voilà, une interview qui est pas mal du tout, qui est assez longue, de Lionel, qui parle de logiciels libres, de la situation actuelle avec les smartphones, les tablettes. Donc c'est un panorama assez complet. Et voilà, très didactique, Lionel est en général très clair dans ses propos.
Je remarquerai aussi donc qu'il a parlé des 30 ans de GNU et il a réexpliqué un petit peu de quoi il s'agissait, la culture, l'histoire de cette chose-là. Je note aussi qu'il y a d'autres articles qui parlent de tout ça, dont une interview de Stallman sur PC Impact. Je le dis parce que c'était compliqué d'en mettre un plus en avant que l'autre. Et puis Lionel, effectivement, est très didactique, donc c'était quand même sympa de vous le montrer. Donc je vous recommande, et puis en plus l'humanité, ça sort un peu du lot. Donc je vous recommande, allez jeter un œil, c'est vrai que c'est pas mal.
01net Pro. Les perspectives de l'open source pour 2014, un article de Stéphane Fermiger, qui est une tribune plus qu'un article.
Hein. Et on parle pépette, hein.
Bah comme toujours, et puis bah toujours l'open source et le libre en tête, donc là encore il y a des grands chiffres de partout avec des pourcentages affolants sur tout ce qui est le logiciel libre, puis voilà bah toujours la problématique des DSI aussi aujourd'hui, donc les directions informatiques qui ont des choix à faire et que les logiciels libres mettent en cause pas mal les modèles existants.
Voilà, donc c'est une tribune de Stéphane Fermiger qui est un patron d'entreprise qui fait du libre, hein, donc c'est pour ça que c'est une tribune plus qu'un article.
Dans le cadre de l'Open World Forum.
Forum qui se déroule ce week-end, donc voilà le week-end qui vient pour nous, 5 et 6 octobre. Voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve des thèmes qui ont déjà été évoqués dans ce genre de tribune et qui disent notamment, ok, il y a du logiciel libre dans beaucoup d'entreprises, c'est pris à droite à gauche, mais ça manque d'une vraie politique et ça marche bien quand il y a une vraie politique de développement, etc. Et donc on imagine qu'une entreprise qui fait ça va pouvoir effectivement les intégrer plus facilement, mais en acheter plus aussi, donc c'est nécessairement intéressé, mais très bien. Et il y a également la mention d'une notion, mon Manu, toi tu m'as parlé déjà plusieurs fois, qui est...
Le DevOps, hein, développement et opérationnel.
Oui, je crois qu'on en avait parlé rapidement la semaine dernière, donc on va pas se rétendre dessus, puis c'est un petit peu technique pour notre propos. PC Impact, comment le numérique pour éviter le bonnet d'âne à l'école, un article de Xavier Berne. Donc, éducation, c'est un des sujets prioritaires, et là on parle d'informatique et de numérique à l'école. C'est le résultat d'un rapport qui a été rendu par des services de l'État sur comment améliorer tout ça. C'est un constat plutôt d'échec jusqu'à maintenant en disant que la politique ne s'est pas révélée très très efficace. Bon, et ça parle pas des masses de libre quand même.
Non, ça va parler de TVA et de mutualisation des achats, donc du haut vers le bas, on va décider des grands axes et on les pousse. Ça parle aussi du fait que voilà, le B2I, le C2I sont des choses qu'on n'aime pas trop à l'April, bah, ça n'a pas l'air de très bien fonctionner.
Et puis bah aussi, en plus en citant Stallman, qui prend l'exemple qu'aujourd'hui les écoles, c'est le premier shoot, il compare ça à des dealers, en fait l'école offre le premier shoot au logiciel privateur aux différents étudiants et élèves qui sont dans l'éducation, et que bah ils préféraient largement avoir du logiciel libre et que bah tout le monde ait accès à tout ça, et pas à vendre déjà, à les doper et à les rendre dépendants du privateur dès la petite enfance.
Alors dans le rapport, il y a quand même un peu de positif, hein. Il y a notamment un plaidoyer en faveur de l'interopérabilité, et qui dit que ça a toute une série d'avantages. Évidemment, l'interopérabilité et le logiciel libre, c'est parfaitement lié. La logique commerciale du logiciel, pour le coup privateur, le terme est très très bien choisi, c'est justement d'essayer d'enfermer les utilisateurs dans un format pour être sûr qu'ils soient captifs par la suite.
Il parle aussi de contenu libre, hein, donc, et de mettre en place un portail où on pourrait retrouver des ressources qui seraient sous Creative Commons, par exemple. Donc des choses sur lesquelles les professeurs peuvent construire, s'entraider les uns les autres. Ça peut être intéressant et en plus, ça coûterait peut-être moins cher que les manuels scolaires classiques, papier, lourd. On peut rêver.
Le Monde.fr, des entreprises s'alarment de l'arrivée des patent trolls en Europe. Un article de la rédaction.
Alors les patent trolls,
Les patent trolls, donc, c'est les trolls des brevets. Donc en gros, c'est des entreprises qui ne vivent que par des attaques et des procès envers des entreprises qui violeraient des pseudo-brevets.
Oui, souvent des brevets sur des choses idiotes.
Voilà, sur des choses comme tout et n'importe quoi. Et là, en fait, avec le problème du brevet unitaire, c'est qu'il y a deux décisions qui vont être prises et qui pourraient conduire à faciliter la vie des patent trolls.
Oui, parce que les patent trolls, jusqu'à maintenant, ont prospéré en Amérique du Nord. Là où
largement, il est question de milliards qui seraient perdus à cause d'eux.
Voilà, là où les brevets logiciels sont reconnus. Et donc, c'est des boîtes avec des juristes. Ils achètent des brevets, ils en déposent. C'est pas grave s'ils sont complètement stupides. Le principe, c'est si on a une PME en face, c'est de lui tomber dessus et de lui faire des menaces. Hein. C'est du racket. On dit, on va te faire un procès. Donc, même si tu le gagnes, t'es parti pour 2 ans de procédure, est-ce que t'auras les reins assez solides pour tenir tout ça? Et contre une somme beaucoup moins chère, ces entreprises sont tentées de se débarrasser du problème en lâchant quelques dizaines de milliers de dollars, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que les boîtes qui poussent cette alerte contre les patent trolls, c'est leur arrivée en Europe.
Oui, ce ne sont pas des petites boîtes.
Ce ne sont pas des petites boîtes et ce ne sont même pas des boîtes européennes.
Et non, dans l'eau, on peut peut-être citer donc Intel, BlackBerry,
Apple, Samsung, même
Cisco,
des boîtes françaises, Cisco,
Google, voilà.
Microsoft, HP, Yahoo. Donc en gros, tous les gros ténors américains et pas que américains qui en gros ont ramé, se sont pris des grosses claques, etc. sur le marché américain,
oui, hein, des
arrivent
fois,
en Europe et disent hop, attention à ce que vous faites, on va se retrouver avec les mêmes ennuis qu'on a en Amérique du Nord. S'il vous plaît, évitez ça. Donc c'est quand même assez intéressant de voir que ces boîtes qui investissent des milliards, et vraiment des milliards dans les brevets, viennent prévenir que finalement ça marche pas.
Oui, je rappellerai, même Obama, il semblerait, a fait des sorties là-dessus parce qu'ils se rendent compte que ça leur coûte.
Contre les trolls, oui.
Voilà,
contre
c'est ça, trolls, ça leur coûte trop cher, c'est question de dizaines de milliards.
Ça coûte très très cher, et puis en fait on arrive à des situations qui sont complètement apocalyptiques, enfin n'importe quoi. Là par exemple, en Europe, ce qui pourrait se passer, c'est qu'on pourrait porter plainte en fait contre une entreprise pour violation de brevet, alors même que le brevet en question est remis en cause par une autre entité. On pourrait avoir quelqu'un qui se retrouve condamné et ensuite le brevet qui soit cassé. Donc ça serait vraiment n'importe quoi.
Voilà, en tout cas, c'est une très bonne nouvelle que d'aussi grosses entreprises apportent de l'eau à notre moulin. On espère qu'elles seront entendues. Alors, c'est des boîtes américaines et actuellement, des boîtes étrangères de l'Internet, tout ça, elles sont assez mal vues parce que le gouvernement réfléchit à comment leur mettre le grappin sur fiscalement sur leur argent. Mais bon, voilà, leur propos est tout à fait pertinent. Basta, l'univers de la culture libre et non marchande à sa galaxie Framasoft. Un article d'Agnès Rousseau.
C'est plutôt intéressant, un article sur un site un petit peu contre-culture, et où on présente Framasoft et tout ce qui tourne autour, tous les services. Donc Framasoft sont des grands amis, c'est une association partenaire.
Ouais, c'est vraiment des grands amis, donc a été créé par AK. Et,
AK, c'est un surnom. Hein.
Ah oui, c'est un surnom, et c'est Alexis Kaufmann, qui en fait c'est plus une galaxie aujourd'hui maintenant, Framasoft. Au départ c'était juste un annuaire de logiciels libres, aujourd'hui c'est devenu...
Au début c'était même un annuaire de logiciels gratuits, dont plein de logiciels propriétaires, voilà. Et Alexis Kaufmann a découvert le libre à cette occasion-là, puisqu'initialement il voulait faire un truc, puisqu'il est prof. Il voulait faire quelque chose pour ses collègues et il a découvert le truc et a tourné tout libre par la suite.
Et aujourd'hui, il y a plein de projets qui gravitent autour de ça. On a toujours l'annuaire du logiciel libre. On a plein d'outils libres aussi mis à disposition. Et ça fait des blogs, des informations, toute une galaxie quoi, autour du libre.
Des activités d'édition, des services en ligne. Il y a vraiment des tonnes de choses.
Ils font même des livres, effectivement. Ouais. Les Framabooks. Hein.
Des traductions. Allez voir, d'ailleurs, on parle souvent de leurs articles traduits sur la Framalangue. Donc, allez voir l'article. Il est pas mal du tout. Il fait le tour d'horizon de ce que fait Framasoft. Et ça vous permettra de découvrir cette super association. La presse, la loi du code, un article de Pierre Asselin.
Alors ça, c'est une grande bonne nouvelle au Québec.
Voilà, au Québec, donc ça fait suite à ce qu'on avait déjà parlé la semaine dernière. Donc là, il y a eu une loi qui a été, qui est en passe d'être votée pour faciliter le logiciel libre. Il y a une vraie volonté de faciliter l'usage et de mettre en avant l'usage du logiciel libre dans l'administration. Donc c'est vraiment un gros, gros point positif. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne se sont pas préoccupés des sujets qui peuvent être considérés comme très importants par l'actualité. Et parmi ces gros sujets, ils ont pris le temps d'aller voter une loi sur le logiciel libre.
Ce qui est exceptionnel, c'est que c'est une motion qui a été votée de façon unanime, donc c'est assez incroyable. Et ce qui est assez étonnant, puisqu'on avait ce bilan sur ce qui s'était passé au Québec, où il y avait eu une campagne très très forte pour que le libre puisse rentrer dans l'administration du gouvernement québécois, à l'occasion du renouvellement d'XP qui arrivait en fin de vie. Ça avait été fortement déçu.
Oui, en plus de ça, il y avait des problèmes de marché public, parce que normalement, un marché public, ça devrait être neutre envers les marques, ça ne devrait pas imposer un logiciel propriétaire, hein, parce qu'après tout, c'est en soi-même, c'est monopolistique et c'est limité. Donc ça avait été cassé, ça avait été remis en place, et là, de voir un truc fait à l'unanimité de cette manière-là, je pense que c'est les gouvernements qui, à chaque fois, font un peu la tête, et qui, là, vont peut-être trouver un moyen de retirer la motion, implémenter un petit détail.
Le marché est passé, donc sur cette grosse partie, c'est raté, mais on espère que pour les années à venir, le libre va s'implanter sérieusement au Québec. Voilà, en tout cas, c'est une excellente nouvelle.
Moi, ça me fait penser à ce qui se passe au Sénat et au Parlement français. Hein. On a passé ces derniers temps des motions, des choses vraiment intéressantes qu'on appréciait, et le gouvernement revenait derrière et paf, les virait. Ce qui est rageant, ce qui est vraiment rageant.
Ça prouve que les choses avancent. Il y a encore quelques années, on disait logiciel libre, personne ne savait ce que c'était, y compris chez les politiciens. Et voilà, et ça montre aussi que notre travail n'est pas inutile et ça fait chaud au cœur, même si on n'est pas tout seul sur le coup. Région Île-de-France, portes ouvertes pour le logiciel libre, un article de Xavier Frison. Bon, c'est un article en gros qui annonce l'OpenRL Forum, encore lui.
Eh oui, hein, c'est un gros truc.
Donc article fait par la région Île-de-France hein, sur son site.
C'est surtout ça qui était intéressant.
Voilà. Et bon, ils se font pas mal mousser hein, dans l'article. Ils prennent le soin d'expliquer que ça se passe chez eux, que voilà, qu'ils ont donné les moyens pour ça. Donc la région Île-de-France veut que ça se sache. Ils sont pour beaucoup dans l'OpenRL Forum.
Ah oui, non mais attends, c'est normal quoi. Les autorités locales ont construit le logiciel libre, elles contribuent. Et puis là, il y a un minimum quoi. C'est quoi, ils doivent offrir les locaux, j'imagine, au minimum.
Ouais.
En fait, on n'en sait rien du tout. Non, comme il rappelle qu'il y a des grands projets comme VLC qui ont été faits par des étudiants franciliens, donc voilà, ça c'est super important, etc. Il rappelle qu'il y a un pôle de compétitivité logiciel libre en Île-de-France. Bon, ils oublient de mentionner qu'ils ont fait un accord de recherche avec Microsoft juste derrière,
oups,
avec qui représente beaucoup plus d'argent. Mais bon, voilà, non, c'est bien, ça avance. Et si la région Île-de-France se vante parce qu'il se passe des trucs logiciels libres chez elle, tant mieux.
Non, puis ça fait du bien de voir bah, justement des sites grand public à publier des informations comme ça et que ça reste pas cantonné à des sites informatiques ou très geeks en général.
PC Impact, comment le CSA compte réguler tous les contenus culturels numériques? Un article de Marc Ress.
Alors là, on peut faire la tête parce que le CSA, rappelons-le, c'est eux qui gèrent d'habitude les choses comme la télévision. Et là, leur demander, parce que c'est la direction que ça prend de gérer le net, eh bien, on est un peu dégoûté.
Bah en fait, le CSA, c'est l'entité qui va récupérer en fait déjà tout ce que fait l'Adopi aujourd'hui. Donc, bah, on était déjà contre l'Adopi.
On pense, hein, parce que oui. C'est pas encore.
Bah, c'est un peu l'idée, mais on l'avait vu venir. Hein, on l'avait dit ces dernières semaines hein, avec les annonces de mort de l'Adopi. On fait youpi, mais bon, en même temps, on sait que le CSA va reprendre sensiblement les mêmes missions.
Ouais, donc, carré de ces là, tout voilà, ça.
Et donc, ils reparlent bah, de reprendre la riposte graduée, d'autres choses, et puis des choses assez rigolotes comme ils veulent contrôler Internet. Donc, je sais pas trop comment ils comptent s'y prendre, parce que bon, Internet, faudra leur dire qu'un jour c'est mondial quand même. Hein, ça limite pas la France. Et voilà, ils veulent demander à des moteurs de recherche de mettre des petites pastilles
rouges
et vertes.
Oui, on retrouve des idées qui avaient été sorties dans des projets de loi il y a plusieurs années maintenant et qui étaient l'idée de labelliser les bons sites pour que l'internaute stupide puisse faire la différence entre le bon site et le mauvais site et pousser le vice jusqu'à ce que cette labellisation apparaisse dans les moteurs de recherche. Ils ont même fait un petit montage. Donc derrière, quand on pense à la neutralité du net, dès lors qu'on va commencer à estampiller les bons sites, on imagine tous les développements qu'il peut y avoir derrière. Ça sent vraiment pas bon. Et évidemment, derrière, ça va être des sites avec des DRM dans tous les coins et des trucs comme
ouais,
ça.
Et puis il parle par exemple de faire de financer via des réductions d'impôts ou d'autres choses de certains sites qui seraient compatibles avec leurs idées. Il va falloir définir quand même qu'est-ce que c'est leurs idées et pourquoi ils vont privilégier tel ou tel site par rapport à d'autres. Enfin, ça sent ouais, au niveau neutralité du net ou même d'aller modifier les moteurs de recherche. J'imagine mal Google aller mettre des pastilles juste pour la France. Enfin, on marche vraiment sur la tête à tout niveau. Ils n'ont pas du tout compris ce que c'était Internet, que c'était pas du tout la télé. Et avec des idées bah, qui sont proches de la censure ou en tout cas du contrôle étatique. Et bah,
à partir du moment où certains acteurs sont reconnus par l'État et bénéficient d'avantages fiscaux, donc de financiers, ça s'appelle de la subvention, et ça veut dire que l'État décide de qui peut s'exprimer et qui va avoir plus de mal à le faire. Donc c'est assez pénible. Donc il y a des réactions assez radicales face à cette proposition. Alors par exemple, l'ASIC s'est exprimé au travers de son secrétaire général, qui est Giuseppe De Martino, et qui dit « Le CSA, de peur d'être un jour démantelé, continue à rêver au jour fou où il pourrait avoir vocation à regarder ce qui se passe sur Internet, ce qui serait une vraie découverte pour ses membres. » Donc voilà, donc là-dedans on a en gros les acteurs du web 2.0, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais on a notamment Dailymotion et des choses comme ça. Et on a également Philippe Aigrin.
Donc de la Quadrature hein, oui. En partie.
Voilà, et qui est une des personnes qui réfléchit à tout ça depuis longtemps et qui a écrit des bouquins très intéressants là-dessus, vraiment documentés. Donc s'il y a une personne qui a vraiment réfléchi en profondeur là-dessus, c'est lui.
Donc la citation, une citation de Philippe Aigrin, donc « Télévisionniser l'Internet, espace de l'abondance, des sources de contenu, des interactions, en le plaçant sous la tutelle d'une autorité administrative, dont la nature est précisément de gérer l'allocation de la rareté, constitue une violation symbolique majeure. »
Une violence symbolique majeure.
Une violence symbolique majeure.
Très bien, bah on a fait le tour.
Et oui, donc on se dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine tout le monde.
Une bonne semaine.